Le mariage singulier ou la vengeance de Madame de la Pommeraye. Extrait de Jacques le fataliste et son maître, un roman de Denis Diderot. Adapté pour la radio par Marco Pelli et présenté par le Théâtre de l'Oreille. Mise en onde, Marco Pelli. Prise de son et montage, Pierre Bassoli.
Deux personnages, Jacques le valet et son maître, chevauchent plus ou moins paisiblement sur des routes, s'arrêtent dans des auberges, devisent un bâton rompu, questions philosophiques, souvenirs intimes, anecdotes. Et le maître de relancer son valet. « Eh bien Jacques, où en étions-nous de tes amours ?» Mais leur récit en est constamment contrarié, au fil de leur voyage d'autres individus de rencontre y vont aussi de leur récit. Et voilà que s'ouvrent de nouveaux tiroirs confondant allègrement la réalité et la fiction. Tant bien que mal, le narrateur tente de mettre de l'ordre dans ses bavardages anarchiques, commente, relance. Capricieux, c'est tout de même lui qui décide. Or, un jour, au hasard d'une auberge, Jacques trouve plus bavard que lui, détrôné par l'hôtesse, réduit au silence. C'est ainsi que commence l'histoire de Madame de la Pommeraye.
Jacques, nous avons plus d'un jour à vivre ensemble, à moins que...
C'est-à-dire que pour aujourd'hui, le ciel veut que je me taise, ou que ce soit l'hôtesse qui parle. C'est une bavarde. Il parle donc.
Tu prends de l'humeur.
Mais c'est que j'aime à parler aussi.
Mais ton tour viendra.
Ou ne viendra pas.
L'hôtesse remonta, sa chaîne Nicole entre ses bras.
J'espère que vous aurez un bon dîner. Le braconnier vient d'arriver.
Et tout en parlant, elle prenait une chaise. La voilà assise.
Il faut convenir que s'il y a de bien méchants hommes, il y a de bien méchantes femmes.
Et qu'il ne faut pas aller loin pour les trouver.
De quoi vous mêlez-vous ? Je suis femme. Il me convient de dire des femmes tout ce qu'il me plaira. Je n'ai que faire de votre approbation.
Mon approbation vaut bien une autre.
Vous avez là, monsieur, un valet qui fait l'entendu et qui vous manque. J'ai des valets aussi, mais je voudrais bien qu'il s'avisage...
Jacques, taisez-vous. Et laissez parler madame.
Eh bien, lecteur, à quoi tient-il que je n'élève une violente querelle entre ces trois personnages ? Que l'hôtesse ne soit prise par les épaules et jetée hors de la chambre par Jacques, que Jacques ne soit pris par les épaules et chassé par son maître, que l'un ne s'en aille d'un côté, l'autre d'un autre. Et que vous n'entendiez ni l'histoire de l'hôtesse ni la suite des amours de Jacques. Rassurez-vous, je n'en ferai rien. L'hôtesse, encouragée par le propos du maître, se lève, entreprend Jacques, porte ses deux poings sur ses deux côtés, oublie qu'elle tient Nicole, la lâche, et voilà Nicole sur le carreau, froissée et se débattant dans son maillot, aboyant à toute tête, l'hôtesse mêlant ses cris aux aboiements de Nicole, Jacques mêlant ses éclats de rire aux aboiements de Nicole et aux cris de l'hôtesse. Et le maître de Jacques ouvrant sa tabatière, reniflant sa prise de tabac et ne pouvant s'empêcher de rire. Et voilà, toute l'hôtellerie en tumulte.
Nanon, Nanon, vite, vite! Apportez la bouteille à l'eau de vie. Ma pauvre Nicole est morte. Démaillotez-la. Oh, que vous êtes gauche!
Je fais de mon mieux.
Mais elle crie. Écoutez-vous de là, laissez-moi faire. Elle est morte. Oh, ris bien, grand Nigo. Il y a en effet de quoi rire. Ma pauvre Nicole est morte.
Non, madame, non, je crois qu'elle en reviendra. La voilà qui remue.
Et Nanon de frotter d'eau de vie le nez de la chienne et de lui en faire avaler, et l'hôtesse de se lamenter, de se déchaîner contre les valets impertinents, et Nanon de dire...
Tenez, madame, elle ouvre les yeux. La voilà qui vous regarde.
La pauvre bête, comme cela parle. Qui n'en serait touchée? Viens, viens, ma pauvre Nicole. Crie, mon enfant, crie, si cela peut te soulager. Il y a un sort pour les bêtes comme pour les gens. Allez, Nanon, ramaillotez-la. Portez-la sous mon oreiller. Et songez qu'au moindre cri qu'elle fera, je m'en prends à vous. Viens, viens, pauvre bête, que je t'embrasse encore une fois avant qu'on ne t'emporte. Approchez-la donc, sotte que vous êtes. Ces chiens, cela est si bon. Cela vaut mieux que...
Que père, mère, frère, sœur, enfant, valet, époux.
Mais oui, ne pensez pas rire. Cela est innocent, cela vous est fidèle, cela ne vous fait jamais de mal. Au lieu que le reste...
Vive les chiens! Il n'y a rien de plus parfait sous le ciel.
La passion de l'hôtesse pour les bêtes n'était pourtant pas sa passion dominante, comme on pourrait l'imaginer. C'était celle de parler. Aussi ne se fit-elle pas prier pour reprendre l'histoire interrompue du mariage singulier. Elle y mit seulement pour condition que Jacques se tairait. Le maître promit du silence pour Jacques. Jacques s'étala nonchalamment dans un coin, les yeux fermés, son bonnet renfoncé sur ses oreilles et le dos à demi tourné à l'hôtesse. Mais tout ça, cracha, se moucha, tira sa montre, vit l'heure qu'il était, tira sa tabatière, frappa sur le couvercle, prit sa prise de tabac et l'hôtesse se mit en devoir de goûter le plaisir délicieux de pérorer.
Vous n'avez encore rien dit.
Ces deux hommes avec lesquels j'étais en querelle pour ma pauvre Nicole lorsque vous êtes arrivé, monsieur...
Dites messieurs.
Et pourquoi?
C'est qu'on nous a traités jusqu'à présent avec politesse et que j'y suis fait. Mon maître m'appelle Jacques, les autres monsieur Jacques.
Je ne vous appelle ni Jacques, ni monsieur Jacques. Je ne vous parle pas.
Le maître fit un signe à l'hôtesse sur lequel elle comprit que Jacques avait la cervelle brouillée. L'hôtesse répondit au signe du maître par un mouvement compatissant des épaules.
À son âge, cela est très fâcheux.
Très fâcheux de ne savoir jamais où l'on va.
L'hôtesse, ignorant désormais Jacques, reprend son récit.
Le plus âgé des deux s'appelle le marquis des Arcis. C'était un homme de plaisir, très aimable, croyant peu à la vertu des femmes.
Il avait raison.
Monsieur Jacques, vous m'interrompez.
Madame l'hôtesse du Grand Cerf, je ne vous parle pas.
Monsieur le marquis en trouva pourtant une assez bizarre pour lui tenir rigueur. Elle s'appelait Madame de la Pommeraye. C'était une veuve qui avait des mœurs, de la naissance, de la fortune et de la hauteur. Monsieur des Arcis rompit avec toutes ses connaissances, s'attacha uniquement à elle, lui fit sa cour avec la plus grande assiduité, lui proposa même de l'épouser. Mais cette femme avait été si malheureuse avec un premier mari qu'elle aurait mieux aimé s'exposer à toutes sortes de malheurs qu'au danger d'un second mariage.
Ah, si cela avait été écrit là-haut.
Cette femme vivait très retirée. Le marquis était un ancien ami de son mari. Elle l'avait reçu et elle continuait de le recevoir. Si on lui pardonnait son goût effréné pour la galanterie, c'était ce qu'on appelle un homme d'honneur. La poursuite constante du marquis, secondée de ses qualités personnelles, de sa jeunesse, des apparences de la passion la plus vraie, de la solitude, du penchant à la tendresse, en un mot, de tout ce qui nous livre à la séduction des hommes, eut son effet. Et Madame de la Pommeraye, après avoir lutté plusieurs mois contre le marquis, contre elle-même, exigé selon l'usage les serments les plus solennels, rendit heureux le marquis qui aurait joui du sort le plus doux s'il avait pu conserver pour sa maîtresse les sentiments qu'il avait jurés et qu'on avait pour lui. Tenez, monsieur, il n'y a que les femmes qui sachent aimer. Les hommes n'y entendent rien.
Madame,
qu'est-ce?
Le frère quêteur.
Donnez-lui 12 sous pour ces messieurs qui sont ici, 6 sous pour moi, et qu'il aille dans les autres chambres. Au bout de quelques années, le marquis commença à trouver la vie de Madame de la Pommeraye trop unie. Il lui proposa de se répandre dans la société. Elle y consentit. À recevoir quelques femmes et quelques hommes, et elle y consentit. À avoir un dîner-souper, et elle y consentit. Peu à peu, il passa un jour, 2 jours, sans la voir. Peu à peu, il manqua au dîner-souper qu'il avait arrangé. Peu à peu, il abrégea ses visites. Il eut des affaires qui l'appelaient. Lorsqu'il arrivait, il disait un mot, s'étalait dans un fauteuil, prenait une brochure, la jetait, parlait à son chien ou s'endormait. Le soir, sa santé, qui devenait misérable, voulait qu'il se retirât de bonne heure. Et tout en parlant ainsi, il prenait sa canne et son chapeau et s'en allait, oubliant quelquefois de l'embrasser. Madame de la Pommeraye.
Madame ?
Qu'est-ce ?
Le tonnelier.
Qu'il descende à la cave et qu'il visite les 2 pièces de vin. Madame de la Pommeraye, donc, pressentit qu'elle n'était plus aimée. Il fallut s'en assurer. Et voici comment elle s'y prit.
Madame ?
J'y vais, j'y vais.
L'hôtesse, fatiguée de ces interruptions, descendit et prit apparemment les moyens de les faire cesser et reprit son récit.
Un jour, après dîner, elle dit au marquis.
Mais vous rêvez, mon ami.
Vous rêvez aussi, marquise.
Il est vrai. Et même assez tristement.
Qu'avez-vous ?
Rien.
Cela n'est pas vrai. Alors, marquise, racontez-moi cela. Cela vous désennuiera et moi.
Est-ce que vous vous ennuyez ?
Non, c'est qu'il y a des jours...
où l'on s'ennuie.
Vous vous trompez, mon ami. Je vous jure que vous vous trompez. C'est qu'en effet, il y a des jours... on ne sait à quoi cela tient.
Mon ami, il y a longtemps que je suis tentée de vous faire une confidence. Mais je crains de vous affliger.
Vous pourriez m'affliger, vous ?
Peut-être. Mais le ciel m'est témoin de mon innocence.
Madame ! Madame, madame !
Pour qui et pour quoi que ce soit, je vous ai défendu de m'appeler. Appelez mon mari.
Il est absent.
Messieurs, je vous demande pardon. Je suis à vous dans un moment.
Et voilà l'hôtesse descendue, remontée et reprenant son récit.
Mais cela s'est fait sans mon consentement, à mon insu. Par une malédiction à laquelle toute l'espèce humaine est apparemment assujettie, puisque moi-même, je n'y ai pas échappé.
Ah, c'est de vous. De quoi s'agit-il ?
Marquis, il s'agit... Je suis désolée. Je vais vous désoler. Et, tout bien considéré, il vaut mieux que je me taise.
Non, mon ami, parlez. Auriez-vous au fond de votre cœur un secret pour moi ? La première de nos conventions ne fut-elle pas que nos âmes s'ouvriraient l'une à l'autre sans réserve ?
Il est vrai. Et voilà ce qui me pèse. Est-ce que vous ne vous apercevez pas que je n'ai plus la même gaieté ? J'ai perdu l'appétit. Je ne bois et je ne mange que par raison. Je dors mal. Nos sociétés les plus intimes me déplaisent. La nuit, je m'interroge et je me dis, est-ce qu'il est moins aimable ? Non. Est-ce que vous auriez à vous en plaindre ? Non. Auriez-vous à lui reprocher quelques liaisons suspectes ? Non. Est-ce que sa tendresse pour vous est diminuée ? Non. Pourquoi, votre ami étant le même, votre cœur est-il donc changé ? Car il l'est. Vous ne pouvez vous le cacher. Vous ne l'attendez plus avec la même impatience. Vous n'avez plus le même plaisir à le voir. Cette inquiétude quand il tardait à revenir. Cette douce émotion au bruit de sa voiture, quand on l'annonçait, quand il paraissait. Vous ne l'éprouvez plus.
Comment, madame ?
Alors la marquise de la Pommeraye se couvrit les yeux de ses mains, pencha la tête et se tut un moment, après lequel elle ajouta.
Marquis, je me suis attendue à tout votre étonnement, à toutes les choses amères que vous m'allez dire, parce que je les mérite. Vous êtes le même, mais votre ami est changé. Votre ami vous révère, vous estime autant et plus que jamais, mais une femme accoutumée comme elle à examiner de près ce qui se passe dans les replis les plus secrets de son âme ne peut se cacher que l'amour en est sorti. La découverte est affreuse, mais elle n'en est pas moins réelle. La marquise de la Pommeraye, moi, inconstante, légère, marquis entrée en fureur, chercher les noms les plus odieux, je me les suis donnés d'avance. Donnez-les-moi, je suis prête à les accepter tous. Tous, excepté celui de femme fausse, car en vérité, je ne le suis pas.
Cela dit, Madame de la Pommeraye se renversa sur son fauteuil et se mit à pleurer. Le marquis se précipita à ses genoux et lui dit
« Vous êtes une femme charmante, une femme adorable, une femme comme il n'y en a point. Votre franchise, votre honnêteté me confond et devrait me faire mourir de honte. Ah, quelle supériorité ce moment vous donne sur moi. Que je vous vois grande et que je me trouve petit. C'est vous qui avez parlé la première et c'est moi qui fus coupable le premier. » Je vous avouerai que l'histoire de votre cœur est mot à mot l'histoire du mien. Tout ce que vous vous êtes dit, je me le suis dit. Mais je me taisais, je souffrais, et je ne sais quand j'aurais eu le courage de parler.
Vrai, mon ami ?
Rien de plus vrai. Il ne nous reste qu'à nous féliciter réciproquement d'avoir perdu en même temps le sentiment fragile et trompeur qui nous unissait.
En effet. Quel malheur que mon amour eût duré lorsque le vôtre aurait cessé.
Ou que ce fût en moi qui l'eût cessé le premier.
Vous avez raison, je le sens.
Jamais vous ne m'avez paru aussi aimable, aussi belle que dans ce moment. Et si l'expérience du passé ne m'avait rendu circonspect, je croirais vous aimer plus que jamais.
Et le marquis, en lui parlant ainsi, lui prenait les mains et les lui baisait. Madame de la Pommeraye, renfermant en elle-même le dépit mortel dont elle était déchirée, reprit la parole.
Mais marquis, qu'allons-nous devenir ?
Nous ne nous en sommes imposés ni l'un ni l'autre. Vous avez droit à toute mon estime. Je ne crois pas avoir entièrement perdu le droit que j'avais à la vôtre. Nous continuerons de nous voir, nous nous livrerons à la confiance de la plus tendre amitié. Nous ne saurons épargner tous ces ennuis, toutes ces perfidies, tous ces reproches qui accompagnent communément les passions qui finissent. Nous serons uniques dans notre espèce. Vous recouvrerez toute votre liberté, vous me rendrez la mienne. Nous voyagerons dans le monde, je serai le confident de vos conquêtes. Je ne vous scellerai rien des miennes si j'en fais quelques-unes, ce dont je doute fort, car vous m'avez rendu difficile. Cela sera délicieux. Vous m'aiderez de vos conseils. Je ne vous refuserai pas les miens dans les circonstances périlleuses où vous croirez en avoir besoin. Qui sait ce qui peut arriver ?
Personne.
Il est très vraisemblable que plus j'irai, plus vous gagnerez aux comparaisons, et que je vous reviendrai plus passionné, plus tendre, plus convaincu que jamais que Madame de la Pommeraye était la seule femme faite pour mon bonheur. Et après ce retour, il y a tout à parier que je vous resterai jusqu'à la fin de ma vie.
S'il arrivait qu'à votre retour, vous ne me trouvassiez plus, car enfin, marquis, on n'est pas toujours juste, et il ne serait pas impossible que je ne me prisse de goût, de fantaisie, de passion même, pour un autre, qui ne vous vaudrait pas.
J'en serais assurément désolé, mais je ne m'en plaindrais qu'au sort qui nous aurait séparés lorsque nous étions unis et qui nous rapprocherait lorsque nous ne pourrions plus l'être.
Madame !
Qu'est-ce ?
Le coche.
L'hôtesse partie, le maître dit à son valet
« Jacques, as-tu remarqué une chose ?»«
Quelle ?»«
C'est que cette femme raconte beaucoup mieux qu'il ne convient à une femme d'auberge. »«
Il est vrai. » »«
Et vous, lecteur, parlez sans dissimulation. Voulez-vous que nous laissions là cette élégante et prolixe bavarde d'hôtesse et que nous prenions les amours de Jacques? Pour moi, je ne tiens à rien. Lorsque cette femme remontera, Jacques le bavard ne demande pas mieux que de reprendre son rôle et que de lui fermer la porte au nez. Il en sera quitte pour lui dire par le trou de la serrure « Bonsoir, madame, mon maître dort, je vais me coucher !» Pourtant ici, le maître dit
« Tu ne sais pas la singulière idée qui me passe par la tête. Je te marie avec notre hôtesse et je cherche comment un mari aurait fait lorsqu'il aime à parler avec une femme qui ne déparle pas. »
Jacques s'apprêtait à répondre lorsque l'hôtesse reparut. La voilà remontée et je vous préviens, lecteur, qu'il n'est plus en mon pouvoir de la renvoyer. Pourquoi donc ? C'est qu'elle se présente avec deux bouteilles de champagne, une dans chaque main, et qu'il est écrit là-haut que tout orateur qui s'adressera à Jacques avec cet exorgue s'en fera nécessairement écouter. Elle entre, pose ses deux bouteilles sur la table.
Allons, monsieur Jacques, faisons la paix.
L'hôtesse n'était pas de la première jeunesse. C'était une femme grande et replète, de bonne mine, pleine d'embonpoint. La bouche un peu grande, mais de belles dents. Des joues larges, la plus belle peau. La physionomie ouverte, vive et gaie. Les bras un peu forts, mais des mains superbes. Des mains à peindre ou à modeler. Jacques la prit par le milieu du corps et l'embrassa fortement. Sa rancune n'avait jamais tenu contre du bon vin à une belle femme. Cela était écrit là-haut. Or, l'hôtesse avait placé une des deux bouteilles entre ses genoux et elle en tirait le bouchon. Ce fut avec une adresse singulière qu'elle en couvrit le goulot avec le pouce sans laisser échapper une goutte de vin. « Allons, » dit-elle à Jacques, « vite, vite, votre verre !» Jacques approche son verre. L'hôtesse, en écartant son pouce un peu de côté, donne vent à la bouteille. Et voilà le visage de Jacques tout couvert de mousse. Jacques s'était prêté à cette espièglerie, l'hôtesse et Jacques et son maître de rire. On but quelques rasades pour s'assurer de la sagesse de la bouteille, puis l'hôtesse dit
« Dieu merci, ils sont tous dans leur lit. On ne m'interrompra plus. Et je puis reprendre mon récit. »
Jacques, en la regardant avec des yeux dont le vin de champagne avait augmenté la vivacité naturelle, lui dit, ou à son maître,
« Notre hôtesse a été belle comme un ange. Qu'en pensez-vous, monsieur ?»«
A été ? Pardieu, Jacques ! C'est qu'elle l'est encore. » »«
Monsieur, vous avez raison. C'est que je ne la compare pas à une autre femme, mais à elle-même, quand elle était jeune. »«
Je ne vaux pas grand-chose à présent. » C'est lorsqu'on m'aurait prise entre les deux premiers doigts de chaque main qu'il me fallait voir. Ah, mais laissons là les bonnes et les mauvaises têtes que j'ai tournées. Et revenons à Madame de la Pommeraye.
Si nous buvions d'abord un coup aux têtes que vous avez tournées, ou à ma santé.
Très volontiers. Il y en avait qui en valaient la peine, en comptant ou sans compter la vôtre. Savez-vous que j'ai été pendant 10 ans...
Votre vin est excellent.
Ah, c'est de mon vin dont vous parliez. Eh bien, vous avez encore raison. Vous rappelez-vous où nous en étions ?
Oui, à la conclusion de la plus perfide des confidences.
Monsieur le marquis des Arcis et Madame de la Pommeraye s'embrassèrent, enchantés l'un de l'autre. Ils se séparèrent. Plus la dame s'était contrainte en sa présence, plus sa douleur fut violente quand il fut parti.
Il n'est donc que trop vrai. Il ne m'aime plus.
Je ne vous ferai point le détail de toutes nos extravagances quand on nous délaisse. Vous en seriez trop vain. Je vous ai dit que cette femme avait de la fierté. Mais elle était bien autrement vindicative. Lorsque les premières fureurs furent calmées, et qu'elle jouit de toute la tranquillité de son indignation, elle songea à se venger. mais à se venger d'une manière cruelle, d'une manière à effrayer tous ceux qui seraient tentés à l'avenir de séduire et de tromper une honnête femme. Elle s'est cruellement vengée. Sa vengeance a éclaté et n'a corrigé personne. Nous n'en avons pas été depuis moins vilainement séduites et trompées.
Bon pour les autres, mais vous ?
Hélas, moi la toute première. Oh, que nous sommes sottes ! Encore si ces vilains hommes gagnaient au change. Bon, laissons cela. Que fera-t-elle ? Elle n'en sait rien encore. Elle y rêvera.
Si, tandis qu'elle y rêve...
C'est bien dit. Mais nos deux bouteilles sont vides. Jean ?
Madame ?
Deux bouteilles, de celles qui sont tout au fond, derrière les fagots.
J'entends.
À force d'y rêver, voici ce qui lui vint en idée. Madame de la Pommeraye avait autrefois connu une femme de province qu'un procès avait appelée à Paris, avec sa fille, jeune, belle et bien élevée. Ruinée par la perte de son procès, cette femme en avait été réduite à tenir tripot. On s'assemblait chez elle, on jouait, soupait, et communément, un ou deux des convives passaient la nuit avec madame ou mademoiselle à leur choix. Madame de la Pommeraye mit un de ses gens en quête de ces créatures. On les déterra, on les invita à lui faire visite. Ces femmes, qui avaient pris le nom de Madame et de Mademoiselle Desnoms, ne se firent pas attendre. Dès le lendemain, la mère se rendit chez Madame de la Pommeraye. Après les premiers compliments, Madame de la Pommeraye demanda à la Desnoms ce qu'elle avait fait, ce qu'elle faisait depuis la perte de son procès.
Pour vous parler avec sincérité, je fais un métier périlleux, infâme, peu lucratif et qui me déplaît. Mais nécessité fait loi. J'étais résolue à mettre ma fille à l'opéra, mais elle n'a qu'une petite voix de chambre et n'a jamais été qu'une danseuse médiocre. Quand je l'ai promenée après mon procès, chez des magistrats, chez des grands, chez des prélats, chez des financiers, qui s'en sont accommodés pour un terme, et qui l'ont laissée là. Ce n'est pas qu'elle ne soit belle comme un ange, mais aucun esprit de libertinage, rien de ses talents propres à réveiller la langueur d'homme blasé. Je donne à jouer et à souper, et le soir, qui veut rester, reste.
Vos activités étaient-elles connues ?
Beaucoup trop, malheureusement.
À ce que je vois, vous ne tenez point à votre état.
Aucunement. Et ma fille me proteste tous les jours que la condition la plus malheureuse lui paraît préférable à la sienne.
Et si je me mettais en tête de vous faire à l'une et à l'autre le sort le plus brillant, vous y consentiriez donc ?
À bien moins.
Mais il s'agit de savoir si vous pouvez me promettre de vous conformer à la rigueur des conseils que je vous donnerai.
Quels qu'ils soient, vous pouvez y compter.
Et vous serez à mes ordres quand il me plaira.
Nous les attendrons avec impatience.
Cela me suffit. Retournez-vous-en, vous ne tarderez pas à les recevoir. En attendant, défaites-vous de vos meubles, vendez tout. Ne réservez pas même vos robes, si vous en avez de voyantes, cela ne cadrerait point à mes vues.
Et si nous buvions à la santé de Madame de la Pommeraye ?
Volontiers.
Et à celle de Madame Desnoms ?
Top !
Et vous ne refuserez pas celle de Mademoiselle Desnoms, qui a une jolie voix de chambre, peu de talent pour la danser, et une mélancolie qui l'a réduit à la triste nécessité d'accepter un nouvel amant tous les soirs.
Ne riez pas ! C'est la plus cruelle chose. Si vous saviez le supplice quand on n'aime pas !
À Mademoiselle Desnoms, à cause de son supplice.
Allons.
Notre hôtesse, aimez-vous votre mari ?
Pas autrement.
Vous êtes donc bien à plaindre, car il me semble d'une belle santé.
Tout ce qui reluit n'est pas or.
À la belle santé de notre hôte.
Buvez tout seul.
Jacques, mon ami, tu te presses beaucoup.
Ne craignez rien, monsieur. Demain, il n'y paraîtra pas.
Votre mari est-il couché?
Il y a belle heure.
Et il vous laisse causer comme cela?
Nos maris sont aguerris. Madame de la Pommeraye monte dans son carrosse, court les faubourgs les plus éloignés du quartier de la Dénon, loue un petit appartement en maison honnête dans le voisinage de la paroisse. Le fait meubler le plus succinctement qu'il est possible, invite la Dénon et sa fille à dîner et les installe, leur laissant un précis de la conduite qu'elles ont à tenir.
Notre hôtesse, nous avons oublié la santé de Madame de la Pommeraye. Celle du marquis des Arcis. Ah, cela n'est pas honnête.
Allez, monsieur Jacques. La cave n'est pas vide.
Vous ne fréquenterez point les promenades publiques, car il ne faut pas qu'on vous découvre. Vous ne recevrez personne, pas même vos voisins et vos voisines, parce qu'il faut que vous affectiez la plus profonde retraite. Vous prendrez dès demain l'habit de dévote, parce qu'il faut qu'on vous croie telle. Vous n'aurez chez vous que des livres de dévotion. Vous serez de la plus grande assiduité aux offices de la paroisse, jours de fête et jours ouvrables. Vous ferez connaissance étroite avec le curé et les prêtres de la paroisse parce que je puis avoir besoin de leur témoignage. Vous irez à confesse et vous approcherez des sacrements au moins 2 fois le mois. Vous reprendrez votre nom de famille parce qu'il est honnête et qu'on fera tôt ou tard des informations dans votre province. Vous ferez de temps en temps quelques petites aumônes et vous n'en recevrez point sous quelque prétexte que ce puisse être. Il faut qu'on ne vous croie ni pauvre, ni riche. Votre fille ne sortira jamais sans vous, ni vous sans elle. Vous irez dans les rues les yeux baissés. À l'église, vous ne verrez que Dieu. J'en conviens, cette vie est austère, mais elle ne durera pas. Et je vous en promets la plus signalée récompense. Voyez, consultez-vous. Si cette contrainte vous paraît au-dessus de vos forces, avouez-le-moi. Je n'en serais ni offensée ni surprise. J'oubliais de vous dire, il serait à propos que vous vous fassiez un verbiage de la mysticité et que l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament vous devint familière afin qu'on vous prenne pour des dévotes d'ancienne date. Ne manquez pas, à tort et à travers, de vous déchaîner contre les philosophes. Criez que Voltaire est l'Antéchrist. Sachez par cœur l'ouvrage de votre petit abbé. Et colportez-le s'il le faut. Je ne vous verrai point chez vous. Je ne suis pas digne du commerce d'aussi sainte femme. Mais n'en ayez aucune inquiétude. Vous viendrez ici clandestinement quelquefois et nous nous dédommagerons en petit comité de votre régime pénitent. Mais tout en jouant la dévotion, n'allez pas vous en empêtrer. Quant aux dépenses de votre petit ménage, c'est mon affaire. Si mon projet réussit, vous n'aurez plus besoin de moi. S'il manque, sans qu'il y ait de votre faute, je suis assez riche pour vous assurer un sort honnête et meilleur que l'état que vous m'aurez sacrifié. Mais surtout, soumission absolue à mes volontés, sans quoi je ne réponds de rien.
Voilà une terrible tête de femme. Dieu me garde d'en rencontrer une pareille.
Patience, patience. Vous ne la connaissez pas encore.
En attendant, ma belle, notre charmante hôtesse, si nous disions un mot à la bouteille.
Monsieur Jacques, mon vin de champagne m'embellit à vos yeux.
Je suis pressée depuis si longtemps de vous faire une question, peut-être indiscrète, que je n'y saurais plus tenir.
Faites votre question.
Je suis sûr que vous n'êtes pas née dans une hôtellerie.
Il est vrai.
Que vous y avez été conduite d'un état plus élevé par des circonstances extraordinaires.
J'en conviens.
Et si nous suspendions un moment l'histoire de Madame de la Pommeraye ?
Cela ne se peut. Je raconte volontiers les aventures des autres, mais non pas la mienne.
Il suffit. Disons que je ne vous ai rien dit.
Tandis que nos deux dévotes édifiaient et que la bonne odeur de leur piété et de la sainteté de leur mœurs se répandait à la ronde, Madame de la Pommeraye observait avec le marquis les démonstrations extérieures de l'estime, de l'amitié la plus parfaite. Toujours bienvenue, jamais ni grondée ni boudée, même après de longues absences. Il lui racontait toutes ses petites bonnes fortunes et elle paraissait s'en amuser franchement. Elle lui donnait ses conseils dans les occasions d'un succès difficile. Elle lui jetait quelquefois des mots de mariage, mais c'était d'un ton si désintéressé qu'on ne pouvait la soupçonner de parler pour elle. Si le marquis lui adressait quelques-uns de ses propos tendres ou galants, dont on ne peut guère se dispenser avec une femme qu'on a connue, elle en souriait ou les laissait tomber. À l'en croire, son cœur était paisible. Et puis, elle n'était plus de la première jeunesse. Et ses goûts étaient bien émoussés.
Quoi ? Vous n'avez rien à me confier ?
Non.
Mais le petit comte, mon ami, qui vous pressait si vivement de mon règne...
Je lui ai fermé ma porte et je ne le vois plus.
C'est d'une bizarrerie. Et pourquoi l'avoir éloigné ?
C'est qu'il ne me plaît pas.
Madame, je crois vous deviner. Vous m'aimez encore.
Cela se peut.
Vous comptez sur un retour.
Pourquoi non ?
Et vous vous ménagez tous les avantages d'une conduite sans reproche.
Je le crois.
Et si j'avais le bonheur ou le malheur de reprendre, vous vous feriez au moins mérite du silence que vous garderiez sur mes torts.
Vous me croyez bien délicate et bien généreuse.
Ma foi, je cours le plus grand danger avec vous. J'en suis sûr.
Et moi aussi.
Il y avait environ 3 mois qu'ils en étaient au même point, lorsque Madame de la Pommeraye crut qu'il était temps de mettre en jeu ses grands ressorts. Un jour d'été, qu'il faisait beau et qu'elle attendait le marquis à dîner, elle fit dire à la Dénon et à sa fille de se rendre au jardin du roi. Le marquis vint. On dîna gaiement. Après dîner, Madame de la Pommeraye propose une promenade au marquis. Le hasard voulut que ce fût lui-même qui invita la marquise à aller voir le cabinet du roi. Il ne fut pas refusé, comme vous pensez bien. Voilà les chevaux mis, les voilà partis, les voilà arrivés au jardin du roi, et les voilà mêlés dans la foule, regardant tout et ne voyant rien, comme les autres.
Lecteur, j'avais oublié de vous peindre les 3 personnages dont il s'agit ici. Jacques, son maître et l'hôtesse. Le maître, à gauche, en bonnet de nuit, en robe de chambre, était étalé nonchalamment dans un grand fauteuil de tapisserie, son mouchoir jeté sur le bras du fauteuil et sa tabatière à la main. L'hôtesse sur le fond, en face de la porte, proche de la table, son verre devant elle. Jacques, sans chapeau à sa droite, les 2 coudes appuyés sur la table et la tête penchée entre 2 bouteilles, 2 autres étaient à terre à côté de lui.
Au sortir du cabinet, le marquis et sa bonne amie se promenèrent dans le jardin. Ils suivaient la première allée à droite lorsque Madame de la Pommeraye fit un cri de surprise.
Je ne me trompe pas, je crois que ce sont elles. Mais oui, ce sont elles.
Aussitôt requitte le marquis, fixe l'attention tout entière sur la personne.
Ah, c'est vous, madame ?
Oui, c'est moi. Et comment vous portez-vous ? Et qu'êtes-vous devenue depuis une éternité ?
Vous savez nos malheurs. Il a fallu s'y résigner et vivre retirée comme il convenait à notre petite fortune. Sortir du monde quand on ne peut plus s'y montrer décemment.
Mais moi, me délaisser ? moi qui ne suis pas du monde.
Un des inconvénients de l'infortune, c'est la méfiance qu'elle inspire. Les indigents craignent d'être importuns.
Vous, importune pour moi? Ce soupçon est une bonne injure.
Madame, j'en suis tout à fait innocente. Je vous ai rappelé 10 fois à maman, mais elle me disait « Personne, ma fille, ne pense plus à nous. »
Quelle injustice! Asseyons-nous, nous causerons. Voilà monsieur le marquis des Arcis, c'est mon ami, et sa présence ne nous gênera pas. Comme mademoiselle est grandie, qu'elle est embellie.
Notre position a cela d'avantageux qu'elle nous prive de tout ce qui nuit à la santé. Voyez son visage, voyez ses bras. Voilà ce qu'on doit à la vie frugale et réglée, au sommeil, au travail, à la bonne conscience. Et c'est quelque chose.
On s'assit, on s'entretint d'amitié. La dénommère parla bien, la dénomphie parla peu. Le ton de la dévotion fut celui de l'une et de l'autre, mais avec aisance et sans pruderie. Longtemps avant la chute du jour, nos deux dévotes se levèrent. On leur représenta qu'il était encore de bonne heure. La dénommère dit assez haut à l'oreille de madame de la Pommeraye qu'elles avaient encore un exercice de piété à remplir et qu'il leur était impossible de rester plus longtemps. Elles étaient déjà à quelque distance lorsque madame de la Pommeraye se reprocha de ne leur avoir pas demandé leur demeure. Le marquis courut pour la demander. Elles acceptèrent l'adresse de madame de la Pommeraye, mais quelles que furent les instances du marquis, il ne put obtenir la leur. Le marquis ne manqua pas de demander à madame de la Pommeraye ce que c'était que ces deux femmes.
Ce sont deux créatures plus heureuses que nous. Voyez la belle santé dont elles jouissent, la sérénité qui règne sur leur visage, l'innocence, la décence qui dicte leurs propos. On ne voit point cela, on n'entend point cela dans nos cercles. Nous plaignons les dévots nous plaignent. Et à tout prendre, je penche à croire qu'ils ont raison.
Mais, marquise, est-ce que vous seriez tentée de devenir dévote?
Pourquoi pas?
Point les y garde. Je ne voudrais pas que notre rupture, si c'en est une, vous mena jusque-là.
Et vous aimeriez mieux que je rouvrisse ma porte au petit comte?
Beaucoup mieux.
Et vous me le conseilleriez?
Sans balancer, je vous dirais que naturellement...
Madame de la Pommeraye dit au marquis ce qu'elle savait du nom, du premier état et du premier procès des deux dévotes, y mettant tout l'intérêt et tout le pathétique possible. Puis elle ajouta
« Ce sont deux femmes d'un mérite rare, la fille surtout. Vous concevez qu'avec une figure comme la sienne, on ne manque de rien ici quand on veut en faire ressource. » Mais elles ont préféré une honnête modicité à une aisance honteuse. Ce qui leur reste est si mince qu'en vérité, je ne sais comment elles font pour subsister. Cela travaille nuit et jour. Supporter l'indigence quand on y est né, c'est ce qu'une multitude d'hommes savent faire. Mais passer de l'opulence au plus étroit nécessaire, s'en contenter, y trouver la félicité, c'est ce que je ne comprends pas. Voilà à quoi sert la religion. La religion est une bonne chose.
Surtout pour les malheureux.
Et qu'est-ce qui ne l'est pas plus ou moins?
C'est que nos opinions religieuses ont peu d'influence sur nos mœurs. Mais mon ami, je vous jure que vous vous acheminez à toutes jambes au confessionnal.
C'est bien ce que je pourrais faire de mieux.
Allez, vous êtes folle. Vous avez encore une vingtaine d'années de jolis péchés à faire. N'y manquez pas. Ensuite, vous vous en repentirez et vous irez vous en vanter au pied du prêtre. Croyez-moi. Rappelez au plus tôt le petit comte. Vous ne verrez plus ni diable, ni enfer, et vous serez charmante comme auparavant. L'honneur de valoir mieux que moi ne vaut pas ce sacrifice.
Vous dites bien vrai. Aussi, n'est-ce pas là ce qui me retient?
Ils dirent encore beaucoup d'autres choses que je ne me rappelle pas. Après quelques tours d'allée, madame de la Pommeraye et le marquis remontèrent en voiture.
Comme cela me vieillit! Quand cela vint à Paris, cela n'était pas plus haut qu'un chou.
Vous parlez de la fille de cette dame que nous avons trouvée à la promenade?
Oui. C'est comme dans un jardin où les roses fanées font place aux roses nouvelles. L'avez-vous regardée?
Je n'y ai pas manqué.
Comment la trouvez-vous?
C'est la tête d'une vierge de Raphaël sur le corps de sa Galatée. Et puis, une douceur dans la voix.
Une modestie dans le regard.
Une bienséance dans le maintien.
Une décence dans le propos qui ne m'a frappée dans aucune fille comme dans celle-là. Voilà l'effet de l'éducation.
Lorsqu'il est préparé par un beau naturel.
Le marquis déposa Madame de la Pommeraye à sa porte et Madame de la Pommeraye n'eut rien de plus pressé que de témoigner à nos deux dévotes combien elle était satisfaite de la manière dont elles avaient rempli leur rôle.
Si elles continuent comme elles ont débuté, monsieur le marquis des Arcis, fussiez-vous le diable, vous ne vous en tirerez pas.
Je voudrais bien savoir quel est leur projet.
Moi, j'en serais bien fâché. Cela gâterait tout.
De ce jour, le marquis devint plus assidu chez Madame de la Pommeraye. Elle ne lui parlait jamais la première des deux dévotes. Elle attendait qu'il entamât ce texte, ce que le marquis faisait toujours d'impatience et avec une indifférence mal simulée.
Avez-vous vu vos amis?
Non.
Savez-vous que cela n'est pas trop bien? Vous êtes riche, elles sont dans le malaise, et vous ne les invitez pas même à manger quelquefois.
Je me croyais un peu mieux connue de monsieur le marquis. Je les ai invitées 10 fois sans avoir pu les obtenir une. Elles refusent de venir chez moi. Quand je les visite, il faut que je laisse mon carrosse à l'entrée de la rue et que j'aille sans rouge et sans diamant. Il ne faut pas trop s'étonner de leur circonspection. Un faux rapport suffirait pour aliéner l'esprit d'un certain nombre de personnes bienfaisantes et les priver de leur secours. Marquis, le bien apparemment coûte beaucoup à faire.
Surtout au dévot.
Si l'on savait que j'y prends intérêt, bientôt on dirait « Madame de la Pommeraye les protège, elles n'ont besoin de rien. » Et voilà les charités supprimées.
Les charités?
Oui, monsieur, les charités.
Vous les connaissez? Elles en sont aux charités.
Encore une fois, marquis, je vois bien que vous ne m'aimez plus et qu'une partie de votre estime s'en est allée avec votre tendresse. Et qui est-ce qui vous a dit que si ces femmes étaient dans le besoin des aumônes de la paroisse, c'était de ma faute?
Pardon, madame, mille pardons, j'ai tort. Mais quelle raison de se refuser à la bienveillance d'une amie?
Ah, marquis, nous sommes bien loin, nous autres gens du monde, de connaître les délicatesses scrupuleuses des âmes timorées. Elle ne croit pas pouvoir accepter les secours de toute personne indistinctement.
Dites-moi, si je leur envoyais une 20aine de louis, croyez-vous qu'elle les refuserait?
J'en suis sûre. Et ce refus vous semblerait déplacé dans une mère qui a un enfant charmant?
Savez-vous que j'ai été tentée de les aller voir?
Je le crois. Marquis, marquis, prenez garde à vous. Voilà un mouvement de compassion bien subi et bien suspect.
Quoi qu'il en soit, m'aurait-elle reçu?
Non, certes. Avec l'éclat de votre voiture, de vos habits et les charmes de la jeune personne, il n'en fallait pas davantage pour apprêter au caquet des voisins et les perdre.
Vous me chagrinez. Il faut donc renoncer à les secourir et à les voir.
Je le crois.
Mais si je leur faisais passer mes secours par votre moyen?
Je ne crois pas ces secours-là assez purs pour m'en charger.
Voilà qui est cruel.
Oui, cruel. C'est le mot.
Quelle vision, marquise, vous vous moquez. Une jeune fille que je n'ai vue qu'une fois...
Mais du petit nombre de celles qu'on n'oublie pas quand on les a vues.
Il est vrai que ces figures-là vous suivent.
Marquis, prenez garde à vous. Vous vous préparez des chagrins. Et j'aime mieux avoir à vous en garantir que d'avoir à vous en consoler. N'allez pas confondre celles-ci avec celles que vous avez connues. Cela ne se ressemble pas. On ne les tente pas, on ne les séduit pas, on n'en approche pas. Elle n'écoute pas, on n'en vient pas à bout.
Après cette conversation, le marquis se rappela tout à coup qu'il avait une affaire pressée. Il se leva brusquement et sortit soucieux. Désormais, le marquis ne passa presque pas un jour sans voir Madame de la Pommeraye. Mais il arrivait, il s'asseyait, il gardait le silence. Elle parlait seule. Le marquis, au bout d'un quart d'heure, se levait et s'en allait. Il fit ensuite une éclipse de près d'un mois, après laquelle il reparut. Mais triste, mélancolique, défait.
Comme vous voilà fait. D'où sortez-vous? Est-ce que vous avez passé tout ce temps en petite maison ?
Ma foi, à peu près. De désespoir, je me suis précipité dans un libertinage affreux.
Comment ? De désespoir ?
Oui, de désespoir.
Puis il se mit à se promener en long et en large sans mot dire. Il allait aux fenêtres, il regardait le ciel, il s'arrêtait devant Madame de la Pommeraye, il allait à la porte, il appelait ses gens à qui il n'avait rien à dire, il les renvoyait. Il rentrait, il revenait à Madame de la Pommeraye, qui travaillait sans l'apercevoir. Il voulait parler, il n'osait. Enfin, Madame de la Pommeraye en eut pitié.
Qu'avez-vous ? On est en moi sans vous voir. Vous reparaissez avec un visage de déterré et vous rôdez comme une âme en peine.
Je n'y puis plus tenir, il faut que je vous dise tout. J'ai été vivement frappé de la fille de votre ami. J'ai tout fait pour l'oublier, et plus j'ai fait, plus je m'en suis souvenu. Cette créature angélique m'obsède. Rendez-moi un service important.
Quel ?
Il faut absolument que je la revoie et que je vous en ai l'obligation. 10 fois je me suis présenté à pied sur leur chemin. Elles ne m'ont seulement pas aperçu. Elles m'ont d'abord rendu libertin comme un sapajou, puis dévot comme un ange. Je n'ai pas manqué la messe 1 fois depuis 15 jours. Ah, mon ami, qu'elle est belle !
C'est-à-dire ? Qu'après avoir tout mis en œuvre pour guérir, vous n'avez rien mis pour devenir fou. Et que ce serait le dernier parti qui vous a réussi.
Et réussi ? Je ne saurais vous exprimer à quel point. N'aurez-vous pas compassion de moi et ne voudrais-je pas le bonheur de la revoir ?
La chose est difficile et je m'en occuperai. Mais à une condition, c'est que vous laisserez ces infortunés en repos et que vous cesserez de les tourmenter. Je ne vous scellerai point qu'elles m'ont écrit de votre persécution avec amertume. Et voilà leur lettre.
La lettre qu'on donnait à lire au marquis avait été concertée entre elles. C'était la dénonfille qui paraissait l'avoir écrite par ordre de sa mère. Et l'on y avait mis d'honnête, de doux, de touchant, tout ce qui pouvait renverser la tête du marquis. Aussi en accompagnait-il chaque mot d'une exclamation. Pas une phrase qu'il ne relut. Il pleurait de joie.
Convenez donc, madame, qu'on n'écrit pas mieux que cela.
J'en conviens.
Et qu'à chaque ligne, on se sent pénétré d'admiration et de respect pour des femmes de ce caractère.
Cela devrait être.
Je vous tiendrai ma parole. Mais songez, je vous en supplie, à ne pas manquer à la vôtre.
En vérité, marquis, je suis aussi folle que vous. Il faut que vous ayez conservé un terrible empire sur moi. Cela m'effraie.
Quand la verrai-je ?
Je n'en sais rien. Il faut s'occuper premièrement du moyen d'arranger la chose et d'éviter tout soupçon. Elles ne peuvent ignorer vos vues. Voyez la couleur que ma complaisance aurait à leurs yeux si elles s'imaginaient que j'agis de concert avec vous.
Mon ami, si vous m'abandonnez, je suis perdu. Je ne vous parlerai point de moi, puisque je vous offenserai. Mais épargnez-leur toutes les folies dont je suis capable. J'irai chez elles. Oui, j'irai, je vous en préviens. Je forcerai leurs portes, j'entrerai malgré elles, je m'assiérai, je ne sais ce que je dirai, ce que je ferai.
Vous remarquerez, messieurs, que depuis le commencement de cette aventure, le marquis n'avait pas dit un mot qui ne fût un coup de poignard au cœur de Madame de la Pommeraye. Elle l'étouffait d'indignation et de rage. Aussi répondit-elle au marquis d'une voix tremblante et entrecoupée.
« Mais vous avez raison. Ah, si j'avais été aimée comme cela, peut-être que... Passons là-dessus. Ce n'est pas pour vous que j'agirai, mais donnez-moi du temps. »«
Le moins que je pourrai. » »«
Ah, notre hôtesse, quel diable de femme. Lucifer n'est pas pire. J'en tremble. Et il faut que je boive un coup pour me rassurer. Est-ce que vous me laisserez boire seule ?»
Moi, je n'ai pas peur. Madame de la Pommeraye disait...
Mais je ne souffre pas seule. Cruel homme, j'ignore quelle sera la durée de mon tourment. Mais j'éterniserai le tien.
Elle tint le marquis près d'un mois dans l'attente de l'entrevue qu'elle avait promise. C'est-à-dire qu'elle lui laissa tout le temps de pâtir, de se bien enivrer. Et que, sous prétexte d'adoucir la longueur du délai, elle lui permit de l'entretenir de sa passion.
Et de la fortifier en parlant.
Quelle femme! Quel diable de femme! Notre hôtesse, ma frayeur redouble.
Le marquis venait donc tous les jours causer avec Madame de la Pommeraye, qui achevait de l'endurcir et de le perdre par les discours les plus artificieux.
Marquis, je crains fort que vous n'obteniez cette fille qu'à des conditions qui jusqu'à présent n'ont pas été de votre goût.
Lorsque Madame de la Pommeraye crut le marquis bien préparé pour le succès de son dessein, elle convint avec les deux femmes qu'elle viendrait dîner chez elle et avec le marquis que pour leur donner le change, il les surprendrait en habit de campagne. Ce qui fut exécuté. On en était au second service lorsqu'on annonça le marquis. Le marquis, Madame de la Pommeraye et les deux Desnoms jouèrent supérieurement l'embarras.
Madame, j'arrive de ma terre. Il est trop tard pour aller chez moi où l'on ne m'attend que ce soir. Et je me suis flattée que vous ne me refuseriez pas à dîner.
Et tout en parlant, il avait pris une chaise et s'était mis à table. On avait disposé le couvert de manière qu'il se trouvât à côté de la mère et en face de la fille. Il remercia d'un clin d'œil Madame de la Pommeraye de cette attention délicate. Après le trouble du premier instant, nos deux dévotes se rassurèrent. On causa. On fut même gais. Le marquis fut de la plus grande attention pour la mère et de la politesse la plus réservée pour la fille. C'était un amusement secret bien plaisant pour ces trois femmes que le scrupule du marquis à ne rien dire, à ne se rien permettre qui pût les effaroucher. Elles eurent l'inhumanité de le faire parler dévotion pendant 3 heures de suite. Il est inutile de dire que nos dévotes mirent dans la conversation tout ce qu'elles avaient de grâce, d'esprit et de séduction. On toucha en passant le chapitre des passions et Mademoiselle Duquenois, c'était son nom de famille, prétendit qu'il n'y en avait qu'une seule de dangereuse. Le marquis fut de son avis. Entre les 6 et 7 heures, les deux femmes se retirèrent sans qu'il fût possible de les arrêter. Madame de la Pommeraye prétendant avec Madame Duquenois qu'il fallait aller de préférence à son devoir. Les voilà parties au grand regret du marquis et le marquis en tête à tête avec Madame de la Pommeraye.
Eh bien, marquis, ne faut-il pas que je sois bien bonne? Trouvez-moi à Paris une autre femme qui en fasse autant.
J'en conviens. Il n'y en a pas une qui vous ressemble. Votre bonté me confond. Vous êtes la seule véritable amie qu'il y ait au monde.
Êtes-vous bien sûr de sentir toujours également le prix de mon aide?
Je serais un monstre d'ingratitude si j'en rabattais.
Changeons de texte. Quel est l'état de votre cœur?
Faut-il vous l'avouer franchement? Il faut que j'aie cette fille-là. Ou que j'en périsse.
Vous l'aurez sans doute, mais il faut savoir comme quoi.
Le marquis fut environ 2 mois sans se montrer. Dans l'intervalle, il fit connaissance avec le confesseur de la mère et de la fille. Ce prêtre, après avoir mis toutes les difficultés hypocrites qu'on peut apporter à une intrigue malhonnête, et vendu le plus chèrement qu'il fut possible la sainteté de son ministère, se prêta à tout ce que le marquis voulut. La première scélératesse de l'homme de Dieu, ce fut de gagner la bienveillance du curé. Il le persuada que les deux protégés de Madame de la Pommeraye obtenaient de la paroisse une aumône dont elle privait des indigents plus à plaindre qu'elle. Cela pour les amener à ses vues par la misère. Une autre fois, il parlait à la fille des noms de ses charmes, passait de là à l'indulgence infinie du ciel pour des fautes que certaines circonstances nécessitaient, lui demandait ensuite si elle n'avait point de désir, si le tempérament ne lui parlait pas en rêve, si la présence des hommes ne la troublait pas. Il poussait de profonds soupirs, levait les yeux au ciel, priait pour la tranquillité des âmes en peine. La jeune fille le laissait aller. Sa mère et Madame de la Pommeraye, à qui elle rendait fidèlement les propos du directeur, lui suggérait des confidences qui toutes tendaient à l'encourager.
Votre madame de la Pommeraye est une méchante femme.
Jacques, c'est bientôt dit. Sa méchanceté, d'où lui vient-elle? Du marquis des Arcis. Rend celui-ci tel qu'il avait juré et qu'il devait être. Et trouve-moi quelques défauts dans madame de la Pommeraye. Quant à ce prêtre, vil et séducteur, je te l'abandonne.
C'est un si méchant homme que je crois que je n'irai plus à confesse. Et vous, notre hôtesse?
Pour moi, je continuerai mes visites à mon vieux curé, qui n'est pas curieux et qui n'entend que ce qu'on lui dit, laisse danser les filles et les garçons, et qui permet aux hommes et aux femmes de venir chez moi, pourvu qu'ils n'en sortent pas ivres. À mon curé!
À votre curé.
Nos femmes ne doutaient pas qu'incessamment l'homme de Dieu ne hasarda de remettre une lettre à sa pénitente. Ce qui fut fait. Il ne savait de qui elle était. Il ne doutait point que ce ne fût de quelque âme bienfaisante et charitable qui avait découvert leur misère et qui leur proposait des secours. Mademoiselle Duquesnoy accepta la lettre, la remit à sa mère, qui la fit passer à madame de la Pommeraye, qui, munie de ce papier, fit venir le prêtre. Elle le menaça de le déférer à ses supérieurs si elle entendait encore parler de lui. Dans cette lettre, le marquis s'épuisait en éloges de sa propre personne, de mademoiselle Duquesnoy, peignait sa passion aussi violente qu'elle l'était et proposait même un enlèvement. Après avoir fait la leçon au prêtre, madame de la Pommeraye appela le marquis, lui représenta combien sa conduite était peu digne d'un galant homme, lui montra sa lettre et protesta que malgré la tendre amitié qui les unissait, elle ne pouvait se dispenser de la produire au tribunal s'il arrivait quelque aventure éclatante à sa fille.
Ah marquis, l'amour vous corrompt, et que vous ont fait ces pauvres femmes pour ajouter l'ignominie à la misère. Faut-il que, parce que cette fille est belle et veut rester vertueuse, vous en deveniez le persécuteur? Est-ce à vous à lui faire détester un des plus beaux présents du ciel? Par où ai-je mérité, moi, d'être votre complice? Allons, marquis, jetez-vous à mes pieds, demandez-moi pardon, et faites serment de laisser mes tristes amis en repos.
Le marquis lui promit de ne plus rien entreprendre sans son accord, mais qu'il fallait qu'il eût cette fille à quelque prix que ce fût. Mais il ne fut point du tout fidèle à sa parole. Il n'hésita pas à s'adresser à la mère, offrit une somme considérable, accompagnant sa lettre d'un écrin de riches pierreries. Les trois femmes tinrent conseil. La mère et la fille inclinaient à accepter. Mais ce n'était pas là le dessein de madame de la Pommeraye. Elle menaça de tout révéler. Et au grand regret de nos deux dévotes, l'écrin et la lettre furent renvoyés avec une réponse pleine de fierté et d'indignation. Madame de la Pommeraye se plaignit au marquis du peu de consistance de ses promesses. Le marquis avoua qu'il pensait comme elle et lui demanda la permission de faire une dernière tentative. C'était de partager sa fortune avec les deux femmes et de les rendre propriétaires à vie d'une de ses maisons à la ville et d'une autre à la campagne.
Faites, je n'interdis que la violence. Mais croyez, mon ami, que l'honneur et la vertu, quand elle est vraie, n'ont point de prix aux yeux de ceux qui ont le bonheur de les posséder. Vos nouvelles offres ne réussiront pas mieux que les précédentes. Je connais ces femmes.
Les nouvelles propositions sont faites. Autre conciliabule des trois femmes. La mère et la fille attendaient en silence la décision de madame de la Pommeraye.
Non, 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 non. Cela ne suffit pas à mon cœur ulcéré.
Et aussitôt elle prononça le refus, et aussitôt les deux femmes fondirent en larmes, se jetèrent à ses pieds et lui représentèrent combien il était affreux pour elle de repousser une fortune immense. Madame de la Pommeraye leur répondit sèchement.
« Est-ce que vous vous imaginez que ce que je le fais pour vous? Qui êtes-vous? Que vous dois-je? À quoi tient-il que je ne vous renvoie l'une et l'autre à votre tripot? Si ce que l'on vous offre est trop pour vous, c'est trop peu pour moi. Écrivez, madame, la réponse que je vais vous dicter et qu'elle parte sous mes yeux.
Ces femmes s'en retournèrent encore plus effrayées qu'affligées.
Cette femme a le diable au corps, et que veut-elle donc? Quoi? Un refroidissement d'amour n'est pas assez puni par le sacrifice de la moitié d'une grande fortune?
Jacques, vous n'avez jamais été une femme. Encore moins honnête femme. Et vous jugez d'après votre caractère, qui n'est pas celui de Madame de la Pommeraye. Veux-tu que je te dise? J'ai bien peur que le mariage du marquis des Arcis et d'une Catin ne soit écrit là-haut.
S'il est écrit là-haut, il se fera.
Le marquis ne tarda pas à reparaître chez Madame de la Pommeraye.
Eh bien, vos nouvelles offres?
Faites et rejetées, j'en suis désespérée. Je voudrais arracher cette malheureuse passion de mon cœur.
Que résolvez-vous?
Je ne puis me résoudre à rien. Il me prend des envies de me jeter dans une chaise de poste et de courir tant que terre me portera. Un moment après, la force m'abandonne. Je suis comme anéanti, ma tête s'embarrasse, je deviens stupide et ne sais que devenir.
Je ne vous conseille pas de voyager. Ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à Villejuif pour revenir.
Le lendemain, le marquis écrivit à la marquise qu'il partait pour sa campagne, qu'il y resterait tant qu'il pourrait et qu'il la suppliait de le servir auprès de ses amis. Son absence fut courte. Il revint avec la résolution d'épouser.
Ce pauvre marquis me fait pitié.
Pas trop à moi.
Il descendit à la porte de Madame de la Pommeraye. Elle était sortie. En rentrant, elle trouva le marquis étendu dans un fauteuil, les yeux fermés et absorbé dans la plus profonde rêverie.
Ah, marquis, vous voilà. La campagne n'a pas eu de longs charmes sur vous.
Non, je ne suis bien nulle part, et j'arrive déterminé à la plus haute sottise qu'un homme de mon état et de mon caractère puisse faire. Mais il vaut mieux épouser que de souffrir. J'épouse.
Marquis, l'affaire est grave, et demande de la réflexion.
Je n'en ai fait qu'une, mais elle est solide. C'est que je ne puis jamais être plus malheureux que je le suis.
Vous pourriez vous tromper.
La traîtresse.
Voici donc enfin, mon ami, une négociation dont je puisse, me semble, vous charger honnêtement. Voyez la mère et la fille et dites-leur mon dessein.
Tout doucement, marquis. J'ai cru les connaître assez pour ce que j'en avais à faire. Mais à présent qu'il s'agit du bonheur de mon ami, il me permettra d'y regarder de plus près.
Ces précautions me semblent assez superflues. Des femmes dans la misère, qui résistent aux appâts que je leur ai tendus, ne peuvent être que les créatures les plus rares. Avec mes offres, je serais venu à bout d'une duchesse. D'ailleurs, ne m'avez-vous pas dit vous-même?
Oui,
que
j'ai
je...
dit tout ce qu'il vous plaira.
La chienne, la coquine, l'enragée! Et pourquoi aussi s'attacher à une pareille femme?
Et pourquoi aussi la séduire et s'en détacher?
Pourquoi cesser de l'aimer sans rime ni raison?
Ah, mon maître...
Pourquoi, marquise, ne vous mariez-vous pas aussi?
À qui, s'il vous plaît?
Au petit comte. Il a de l'esprit, de la naissance, de la fortune.
Et qui est-ce qui me répondra de sa fidélité? C'est vous, peut-être?
Non, mais il me semble qu'on se passe aisément de la fidélité d'un mari.
D'accord. Mais si le mien m'était infidèle, je serais peut-être assez bizarre pour m'en offenser. Et je suis vindicative.
Eh bien, vous vous vengeriez, cela s'en va sans dire. C'est que nous prendrions un hôtel commun et que nous formerions tous quatre la plus agréable société.
Tout cela est fort beau, mais je ne me marie pas. Le seul homme que j'aurais peut-être été tenté d'épouser...
C'est moi?
Je puis vous l'avouer à présent sans conséquence.
Et pourquoi ne me l'avoir pas dit?
Celle que vous allez avoir vous convient de tout point mieux que moi.
Madame de la Pommeraye produisit au marquis les attestations les plus flatteuses. Il y en avait de Paris, il y en avait de la province. Elle exigea du marquis encore une quinzaine afin qu'il s'examinât de rechef. Cette quinzaine lui parut éternelle. Enfin, la marquise fut obligée de céder à son impatience et à ses prières. La première entrevue se fait chez ses amis. On y convient de tout. Les bans se publient, le contrat se passe. Le marquis fait présent à Madame de la Pommeraye d'un superbe diamant. Et le mariage est consommé.
Quelle trame et quelle vengeance! Délivrez-moi du souci de la nuit des noces.
Tais-toi, Nigo.
La nuit des noces se passa fort bien.
Et en parlant ainsi, elle souriait, et en souriant, elle passait la main sur le visage de Jacques et lui serrait le nez.
Mais ce fut le lendemain.
Le lendemain ne fut pas comme la veille?
Pas tout à fait. Le lendemain, Madame de la Pommeraye écrivit au marquis un billet qui l'invitait à se rendre chez elle au plus tôt pour affaires importantes. Le marquis ne se fit pas attendre. On le reçut avec un visage où l'indignation se peignait dans toute sa force. Le discours ne fut pas long.
Marquis, apprenez à me connaître. Vous aviez acquis une honnête femme que vous n'avez pas su conserver. Cette femme, c'est moi. Elle s'est vengée en vous en faisant épouser une digne de vous. Sortez de chez moi et allez-vous-en rue Traversière à l'hôtel de Hambourg, où l'on vous apprendra le sale métier que votre femme et votre belle-mère ont exercé pendant 10 ans, sous le nom de Dénon.
La surprise et la consternation de ce pauvre marquis ne peuvent se rendre. Il ne savait qu'en penser, mais son incertitude ne dura que le temps d'aller d'un bout à l'autre de la ville. Il ne rentra point chez lui. Erra dans les rues. Sa belle-mère et sa femme eurent quelques soupçons de ce qui s'était passé. Au premier coup de marteau, la belle-mère se sauva dans son appartement et s'y enferma à clé. Sa femme l'attendit seule. À l'approche de son époux, elle lut sur son visage la fureur qui le possédait. Elle se jeta à ses pieds, la face collée contre le parquet, sans mot dire.
« Retirez-vous, infâme, loin de moi !»
Elle voulut se relever, mais elle retomba sur son visage, les bras étendus à terre entre les pieds du marquis.
« Monsieur, foulez-moi aux pieds, écrasez-moi car je l'ai mérité. Faites de moi tout ce qu'il vous plaira, mais épargnez ma mère. »«
Retirez-vous. C'est assez de l'infamie dont vous m'avez couvert. Épargnez-moi un crime. »
La pauvre créature resta dans l'attitude où elle était et ne lui répondit rien. Le marquis était assis dans un fauteuil, hurlant par intervalles, sans la regarder.
« Retirez-vous ! Retirez-vous ! »
Le silence et l'immobilité de la malheureuse le surprirent. Il lui répéta d'une voix plus forte.
« Qu'on se retire ! Est-ce que vous ne m'entendez pas ?»
Ensuite, il se baissa, la repoussa durement, et reconnaissant qu'elle était sans sentiment et presque sans vie, il la prit par le milieu du corps, l'étendit sur un canapé, attacha un moment sur elle des regards où se peignaient alternativement la commisération et le courroux. Il sonna. Des valets entrèrent. On appela ses femmes.
« Prenez votre maîtresse qui se trouve mal. Portez-la dans son appartement et secourez-la. »
Peu d'instants après, il envoya secrètement savoir de ses nouvelles. On lui dit qu'elle était revenue de son premier évanouissement, mais que, les défaillances se succédant rapidement, elles étaient si fréquentes et si longues qu'on ne pouvait lui répondre de rien. Une ou deux heures après, il envoya secrètement savoir de son état. On lui dit qu'elle suffoquait et qu'il lui était survenu une espèce de hoquet qui se faisait entendre jusque dans les cours. À la troisième fois, c'était sur le matin, On lui rapporta qu'elle avait beaucoup pleuré, que le hoquet s'était calmé et qu'elle paraissait s'assoupir. Le jour suivant, le marquis fit mettre ses chevaux à la chaise et disparut pendant 15 jours. Cependant, avant de s'éloigner, il avait pourvu à tout ce qui était nécessaire à la mère et à la fille, avec ordre d'obéir à madame comme à lui-même. Pendant cet intervalle, ces deux femmes restèrent l'une en présence de l'autre, sans presque se parler. La fille sanglotant, s'arrachant les cheveux, se tordant les bras, sans que sa mère osât s'approcher d'elle et la consoler. L'une montrait la figure du désespoir, l'autre la figure de l'endurcissement. La fille 20 fois dit à sa mère
« Maman, sortons d'ici, sauvons-nous !»
Autant de fois la mère s'y opposa.
« Non, ma fille, il faut rester. Il faut voir ce que cela deviendra. Cet homme ne nous tuera pas. »
Et plût à Dieu qu'il l'eût déjà fait.
Vous feriez mieux de vous taire que de parler comme une sotte.
À son retour, le marquis s'enferma dans son cabinet et écrivit 2 lettres. L'une à sa femme, l'autre à sa belle-mère. Celle-ci partit dans la même journée et se rendit au couvent des Carmélites de la ville prochaine, où elle est morte récemment. Sa fille s'habilla et se traîna dans l'appartement de son mari où il lui avait apparemment enjoint de revenir. Dès la porte, elle se jeta à genoux.
« Levez-vous. »
Au lieu de se lever, elle s'avança vers lui sur ses genoux. Elle tremblait de tous ses membres. Elle était échevelée. Elle avait le corps un peu penché, les bras portés sur son côté, la tête relevée, le regard attaché à ses yeux et le visage inondé de pleurs.
Je ne suis pas encore digne que vous vous rapprochiez de moi. Attendez, laissez-moi seulement l'espoir du pardon. Tenez-moi loin de vous, vous verrez ma conduite. Vous la jugerez trop heureuse 1000 fois si vous daignez quelquefois m'appeler. Je me suis laissée conduire par faiblesse à une action infâme. Mais ne croyez pas, monsieur, que je sois méchante. Je n'ai pas balancé à paraître devant vous quand vous m'avez appelée. Et j'ose à présent lever les yeux sur vous et vous parler. La corruption s'est posée sur moi, mais elle ne s'y est point attachée. Je me connais, et une justice que je me rends, c'est que par mon caractère, j'étais née digne de l'honneur de vous appartenir. Monsieur, disposez de moi comme il vous plaira. Faites entrer vos gens, qu'ils me dépouillent, qu'ils me jettent la nuit dans la rue. Je souscris à tout. Quel que soit le sort que vous me préparez, je m'y soumets. Le fond d'une campagne, l'obscurité d'un cloître peut me dérober pour jamais à vos yeux. Parlez et j'y vais. Votre bonheur n'est point perdu sans ressources, et vous pouvez m'oublier.
Levez-vous, je vous ai pardonné. Au moment même de l'injure, j'ai respecté ma femme en vous. Il n'est pas sorti de ma bouche une parole qui l'ait humiliée, et n'en entendra aucune qui l'humilie. Si elle se souvient qu'on ne peut rendre son époux malheureux sans le devenir. Soyez honnête, soyez heureuse, et faites que je le sois. Levez-vous, je vous en prie, ma femme. Levez-vous et embrassez-moi. Madame la marquise, levez-vous, madame des Arcis, levez-vous.
Pendant qu'il parlait ainsi, elle était restée le visage caché dans ses mains et la tête appuyée sur les genoux du marquis. Mais au mot de « ma femme », au mot de Madame des Arcis. Elle se leva brusquement et se précipita sur le marquis. Elle le tenait embrassé, à moitié suffoqué par la douleur et par la joie. Puis, elle se séparait de lui, se jetait à terre et lui baisait les pieds.
Ah, je vous ai pardonné, je vous l'ai dit. Je vois que vous ne m'en croyez rien.
Il faut que cela soit et que je ne le croie jamais.
En vérité, je crois que je ne me repens de rien. Et que cette Pommeraye, au lieu de se venger, m'aura rendu un grand service. Ma femme, allez vous habiller, tandis qu'on s'occupera à faire vos mals. Nous partons pour ma terre, où nous resterons jusqu'à ce que nous puissions reparaître ici, sans conséquence pour vous et pour moi.
Ils passèrent presque 3 ans absents de la capitale.
Et je gagerais bien que ces 3 ans s'écoulèrent comme un jour, et que le marquis des Arcis fut un des meilleurs maris et une des meilleures femmes qu'il eut au monde.
En vérité, je n'ai point été satisfait de cette fille pendant tout le cours des menées de la dame de la Pommeraye et de sa mère. Pas un instant de crainte, pas le moindre signe d'incertitude. Tout ce qu'on a voulu d'elle, elle n'a jamais hésité à le faire. Elle va à confesse, elle communie, elle joue la religion. Elle m'a semblé aussi fausse, aussi méprisable que les 2 autres.
Je vous ai dit la chose comme elle s'est passée, sans rien omettre, sans rien y ajouter. Et qui sait ce qui se passait au fond du cœur de cette jeune fille, et si, dans les moments où elle nous paraissait agir le plus lestement, elle n'était pas secrètement dévorée de chagrin?
Notre hôtesse, pour cette fois, il faut que je sois de l'avis de mon maître. Si Mademoiselle Duquesnoy, si devant la Dénon, avait été une jolie enfant, il y aurait paru.
Jolie enfant ou non, tant il y a que c'est une excellente femme et que son mari est avec elle content, comme un roi, et qu'il ne la troquerait pas contre une autre.
Je l'en félicite. Il a été plus heureux que sage.
Et moi, je vous souhaite une bonne nuit. Il est tard. Il faut que je sois la dernière couchée et la première levée. Quel maudit métier. Bonsoir, messieurs, bonsoir. Je vous avais promis, je ne sais plus à propos de quoi, l'histoire d'un mariage saugrenu. Et je crois vous avoir tenu parole. Monsieur Jacques, je crois que vous n'aurez pas de peine à vous endormir, car vos yeux sont plus qu'à demi fermés. Bonsoir, monsieur Jacques.
Eh bien, notre hôtesse, il n'y a donc pas moyen de savoir vos aventures?
Non.
Vous entrez, lecteur, en fureur au nom de madame de la Pommeraye et vous vous écriez « Ah, la femme horrible! Ah, l'hypocrite! Ah, la scélérate !» Vous pouvez haïr, vous pouvez redouter la Pommeraye, mais vous ne la mépriserez pas. Sa vengeance est atroce, mais elle n'est souillée d'aucun motif d'intérêt. Sachez qu'elle avait jeté au nez du marquis le beau diamant dont tu lui avais fait présent. Avez-vous un peu réfléchi sur les sacrifices que madame de la Pommeraye avait fait au marquis? Sa bourse lui avait été ouverte en toute occasion, et pendant plusieurs années, il n'avait eu d'autre maison, d'autre table que la sienne. Elle s'était assujettie à toutes ses fantaisies, à tous ses goûts. Pour lui plaire, elle avait renversé le plan de sa vie. Elle jouissait de la plus haute considération dans le monde par la pureté de ses mœurs, et elle s'était rabaissée sur la ligne commune. On dit d'elle, lorsqu'elle eut agréé l'hommage du marquis des Arcis, enfin, cette merveilleuse madame de la Pommeraye s'est donc faite commune d'entre nous. Elle avait remarqué autour d'elle les sourires ironiques, elle avait entendu les plaisanteries, et souvent elle en avait rougi et baissé les yeux. Elle était fière, et elle serait morte de douleur plutôt que de promener dans le monde, après la honte de la vertu abandonnée, le ridicule d'une délaissée. Elle touchait au moment où la perte d'un amant ne se répare plus. Tel était son caractère, que cet événement la condamnait à l'ennui et à la solitude, et il ne serait pas permis à une honnête femme perdue, déshonorée, trahie, de jeter le traître entre les bras d'une courtisane ? Ah, lecteur, vous êtes bien sévère dans votre blâme. Pour ma part, j'approuverais fort une loi qui condamnerait aux courtisanes celui qui aurait séduit et abandonné une honnête femme. L'homme commun aux femmes communes.
C'était Le mariage singulier ou la vengeance de Madame de la Pommeraye. Extrait de Jacques le fataliste et son maître, un roman de Denis Diderot. Adapté pour la radio par Marco Pelli et présenté par le Théâtre de l'Oreille. Avec le narrateur Marco Pelli, Jacques Gilbert Zengafinen, le maître Yvan Muller, l'hôtesse Simone Emery, Nanon, la servante, Nathalie Barcellini, Madame de la Pommeraye, Marilyn Bornet, le marquis des Arcis, Jean-Claude Humbert, Madame Denon, mère, Anne Torrent, et Mademoiselle Denon, fille, Daniela Delahose. Mise en onde, Marco Pelli, prise de son et montage, Pierre Bassoli.